RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'est l'un des épisodes clés de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire au début des années 2000. Et pourtant, toute la vérité n'a pas été faite. Le 6 novembre 2004, l'armée ivoirienne bombarde un camp français de la force Licorne à Boaké. 9 soldats français et un américain sont tués, 38 personnes blessées. Dans les heures qui suivent, la flotte ivoirienne est détruite par la France. Des milliers d'Ivoiriens descendent dans les rues d'Abidjan pour protester. Et en quelques jours, plus de 8000 ressortissants français sont évacués. À cette époque, la force Licorne agissait sous mandat de l'ONU, alors que le pays était coupé en deux. L'armée de Laurent Gbagbo au sud, les rebelles de Guillaume Soro au nord. Depuis 11 ans maintenant, la justice française enquête comme elle peut sur ce bombardement. La juge a rendu ses conclusions le 2 février dernier. Elle demande que soient jugés 3 anciens ministres de Jacques Chirac. Elle leur reproche d'avoir tout fait pour qu'il ne soit pas possible d'arrêter les pilotes des avions auteurs du bombardement sur le camp français. Alors comment est-elle arrivée, cette juge, à cette conclusion? Voici le premier grand reportage sur le bombardement de Boaké. Il est signé Anthony Latier avec le concours de Frédéric Gara en Côte d'Ivoire.
On se trouve au lycée René Descartes de Boaké. Quand la crise a commencé, l'armée française est venue s'installer.
Et vous faisiez quoi ici alors?
Bon, c'était tout l'entretien. On faisait tout l'entretien avec l'armée française ici.
Il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de militaires français dans ce camp?
Oui, 200.
Militaires?
Militaires, oui. Vers 14h, on entendait un bruit. Boum! 10 minutes après, on voit les gens courir venir en ville. Et on dit le lycée a été bombardé. Et je me suis levé, je suis venu. Et ils m'ont dit que Draman, non, tu ne peux pas rentrer parce que c'est très grave pour nous. Tu as même perdu ton ami, qui est Baratieu.
Qui était un militaire français.
Oui, c'était un militaire français. Parce que lui, il m'avait pris comme son frère. C'est son image qui est venue sur moi, quoi. Et quand on m'a dit qu'il est décédé, vraiment, ça m'a très, 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 très fait mal. Ça m'a très, très fait mal.
Moi, je suis ancien militaire. Blessé en Côte d'Ivoire en opération Licorne au 6 novembre 2004 lors d'un bombardement à Boaké. À 9h30 du matin, ils ont fait le premier passage. Et à 13h30, moi je suis sorti parce qu'il y avait une sirène qui sonnait chaque fois, il y a un passage des avions étrangères. Et moi personnellement, j'ai vu les avions passer un passage, deuxième passage, troisième passage, ils ont fait un petit, pour moi c'est un petit cœur. Ils sont abaissés, ils ont commencé à tirer. Et je les ai vus tirer. Et moi, la bombe, je l'ai vue. Moi, quand la bombe, elle a tapé, moi, j'étais à côté parce que sur les 9 morts, il y avait 5 qui sont morts à côté de moi. J'étais là, moi. C'était sur mon groupe. C'était affreux. C'était la première fois que je voyais ça. Voilà, c'était dur.
Ce sont deux avions de l'armée de l'air ivoirienne qui viennent de frapper le camp français. Les deux appareils Sukhoi ont été envoyés par Laurent Gbagbo pour reconquérir le nord du pays. On les a vus depuis 3 jours pilonner des positions rebelles dans la région de Boaké, contrôlée par les forces nouvelles. Au fil des éléments déclassifiés, et contrairement aux premières déclarations du gouvernement français, on apprendra que les allées et venues de ces avions étaient suivies de très près par les Français présents à l'aéroport de Yamoussoukro. Un agent français témoigne devant la juge.
Ordre avait été donné de concentrer notre action de renseignement sur ces appareils. Les avions n'étaient pas encore revenus que nous savions déjà qu'ils avaient bombardé Boaké. Je peux vous dire que ces bulletins de documentation, ces vidéos, je les ai faits avec la rage et dans le but que les auteurs du bombardement soient identifiés et si possible interpellés.
Sur les photos et les films réalisés, on voit les deux pilotes biélorusses et les deux copilotes ivoiriens sortir tranquillement du cockpit. Quelques minutes plus tard, la force française Licorne détruit les deux avions restés sur le tarmac. Les pilotes, eux, ne sont pas inquiétés. Comment ont-ils pu fuir? Chef de la force Licorne, le général Poncet, répond que les militaires français n'étaient pas assez nombreux face aux Ivoiriens pour envisager une arrestation. Maître Jean Ballant est l'avocat de la plupart des familles des victimes.
Toute l'armée française, d'une manière officielle, en tout cas tous les soldats, tout le monde était à la recherche de ceux qui étaient les exécutants de cet assassinat-là et qui, évidemment, a mis en émoi absolument toutes les forces armées françaises là-bas. Il ne pouvait pas du tout s'échapper sans avoir, comment vous dire, une complicité française. C'était une impossibilité physique, tout simplement.
Extrait de l'ordonnance de la juge d'instruction Sabine Kéris, que RFI a pu consulter.
Il est apparu que les pilotes avaient été repérés, filmés, identifiés, surveillés dès la descente de l'avion, qu'ils étaient même restés à l'hôtel en Côte d'Ivoire quelques jours avant d'être exfiltrés, qu'ils n'avaient nullement été inquiétés, qu'il n'est pas plausible de croire que la France, qui a détruit la flotte aérienne ivoirienne, ne voulait pas fâcher les Ivoiriens en arrêtant des personnes biélorusses sur son territoire.
Aux yeux de la juge d'instruction, la France a montré plusieurs fois sa volonté de ne pas faire toute la lumière sur cette affaire. D'abord, à Abidjan, quelques heures après le bombardement, 15 personnes d'origine slave sont arrêtées par les soldats français. Ils sont liés à l'équipage de Yamoussoukro. Mais la France s'empresse de les faire libérer.
Gilles Dallolidec, j'ai été ambassadeur de France à Abidjan de décembre 2002 à août 2005. Alors là, je suis directement responsable et j'en parle en connaissance de cause parce que c'est mon collègue et ami, l'ambassadeur de Russie, qui m'a téléphoné et qui m'a dit « Écoute, mon cher Gilda, c'est bien joli, mais je représente ici les intérêts de la Biélorussie et de l'Ukraine. » Et j'ai charge de protection des citoyens de ces deux pays. Et je constate actuellement, vous détenez, sans aucun mandat et sans aucune raison, des citoyens de ces pays et qui n'ont aucune raison d'être détenus. Alors, moi, je me suis retourné vers Paris et j'ai dit, voilà, moi, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce que j'en fais ? Moi, je me suis tourné purement et simplement vers notre service juridique parce que je n'imaginais pas qu'on puisse en tirer quoi que ce soit.
Le général Henri Benteja, ancien chef d'état-major français.
Et le service juridique a été formel. Vous n'avez aucune base légale pour les détenir. Vous êtes à l'étranger. Ce sont des gens qui ne sont ni français ni ivoiriens. Et vous n'avez pas le droit de les garder prisonniers au camp militaire français.
Un ordre est transmis au général Henri Poncet à Abidjan. Ordre qu'il regrette d'avoir eu à appliquer.
Paris m'a demandé instamment de les relâcher, disant qu'on n'avait aucune autorité sur eux pour les garder prisonniers. Bien évidemment, de mon côté, j'aurais très volontiers remis ces mercenaires aux autorités françaises et à la justice en particulier, de façon à ce qu'ils puissent être interrogés pour remonter la filière du mercenariat et remonter peut-être jusqu'au pilote qui est coupable d'avoir bombardé la position française. Allez, confidence pour confidence, je me suis même fait engueuler parce que je ne les relâchais pas assez vite. Mais moi, je tenais à ce que ce soit fait dans les règles et en présence de représentants de la Croix-Rouge. J'avais pas du tout envie qu'on retrouve leur corps dans la lagune quelques jours plus tard et qu'on nous accuse de les avoir trucidés. Bon, je rappelle que, pour y avoir participé d'ailleurs à son élaboration, il y a une loi qui s'appelle la loi Pelcha sur le mercenariat et qu'il est bien précisé dans cette loi que tout mercenaire qui s'en prendrait à des intérêts français et en particulier à des soldats français est passible de la justice française.
Donc il y avait une base légale pour les arrêter si on le voulait.
Bon, ça me semble évident, hein. D'ailleurs, on ne s'est pas posé la question quelques années plus tard quand il s'est agi de traduire en justice des pirates somaliens.
Pour Maître Ballan aussi, ce n'est ni l'argument juridique ni l'argument diplomatique qui explique la libération de ces personnes.
À un moment donné, Agnew-Marie a dit qu'il ne voulait pas se mettre les Biélorusses sur le dos. On a dans le dossier une déclaration des Biélorusses, de leur ministre des Affaires étrangères, qui dit très clairement... Ce sont des mercenaires, faites ce que vous voulez avec eux, ça ne nous concerne pas. Donc il n'y avait aucun problème diplomatique là-dessus, aucun.
Ont-ils été interrogés, ces mécaniciens ?
Je ne pense pas une demi-seconde qu'on n'a pas interrogé ces gens-là. Le plus comique, parce que c'est comique, quand on a demandé la déclassification des documents concernant ces mercenaires, on a versé au dossier leur identification, tout ce que vous voulez, mais accompagné... Des pages blanches. C'est un sort de pied de nez. Tiens, ils ont été écoutés, mais vous saurez jamais ce qu'ils ont dit.
La juge d'instruction regrette qu'il n'ait pas été possible de savoir quel avait été le contenu de leur audition. Les pilotes biélorusses faisaient-ils partie du groupe de personnes gardées par les Français ? Oui, a répondu à nos confrères de Canal+, le traducteur ivoirien qui travaillait avec l'équipage. Les pilotes ont bien été gardés au camp de Port-Boué à Abidjan, nous a aussi indiqué une source du milieu du renseignement. 10 jours après le bombardement, la France a une nouvelle occasion de mettre la main sur les deux pilotes. Ils sont repérés à la frontière togolaise avec 6 autres ressortissants biélorusses. Ils arrivent du Ghana à bord d'un minibus. Suspectant leur lien avec le bombardement, le Togo les met à la disposition de la France.
Immédiatement, les Togolais se sont rendus compte qu'il s'agit des pilotes. Et immédiatement, ils les ont arrêtés. Les ont donnés aux Français, voilà les assassins, prenez-les, faites ce qu'il faut faire avec, d'accord ? La France, c'est pas la France que je mets en cause, c'est une sorte de camarilla qui était au pouvoir à l'époque, très embarrassée de ça, ils ont tout fait pour l'ordre, il est venu de très haut de libérer les pilotes et de les laisser partir. Tout simplement, ils ne voulaient pas d'eux parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils parlent.
Le représentant du ministère français de l'Intérieur sur place raconte à la juge.
J'ai eu des instructions de ne rien faire. Parallèlement, j'étais en contact avec l'attaché de défense. Il m'a dit avoir appelé la direction du renseignement militaire à Paris et également le général Poncet. Ses instructions étaient également de ne pas s'en occuper. Nous nous sommes retournés vers le représentant local des renseignements extérieurs. Ce dernier nous a dit avoir pris contact avec sa centrale et nous a précisé qu'il avait eu pour instruction de ne pas s'en occuper non plus.
La même décision a donc été transmise à 3 personnes différentes. Pour quelles raisons la France refuse-t-elle d'arrêter les pilotes ? Devant la juge, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, racontera qu'elle a consulté son cabinet. « C'est impossible, lui aurait-on dit. Il n'y a pas de base légale, puisque pas de mandat d'arrêt international contre ces pilotes. » Nous avons rencontré l'ancien conseiller juridique de la ministre.
David Sénat, je suis magistrat et précédemment conseiller pour les affaires juridiques au cabinet du ministre de la Défense entre 2003 et 2007. Tout d'abord, je tiens à dire qu'il est regrettable qu'un responsable politique, quel qu'il soit, tente, pour quelque raison que ce soit, de se défausser sur son cabinet. C'est là, à mon sens, la négation même du principe même de responsabilité politique. Sur le fond, jamais, le cabinet, en tout cas moi, membre de ce cabinet, n'a été consulté sur l'existence ou non d'une base légale qui aurait pu permettre leur interpellation et la remise à l'autorité judiciaire française. C'est une justification, une tentative de justification a posteriori, mais ça n'est pas un argument qui a été, encore une fois, imaginé, analysé, proposé ou suggéré au ministre de la Défense au moment où la décision a pu être prise.
Mais s'il y avait une volonté d'arrêter ces pilotes qui étaient les auteurs du bombardement, les exécutants en tout cas, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à ce moment-là s'il y avait eu cette volonté-là ?
Alors la base juridique, elle existait à l'époque, puisqu'on est le 16 novembre 2004, on est encore dans le temps de la flagrance. Un crime flagrant vient de se commettre, à savoir l'assassinat de 9 ressortissants français. Et que, dans le temps de la flagrance, il est parfaitement possible de saisir, il est même non seulement possible, mais même obligatoire, de saisir l'autorité judiciaire pour qu'elle ouvre une enquête immédiatement et qu'elle se saisisse des personnes qui auraient pu être les auteurs présumés de ce crime flagrant. Donc la question, à l'époque, n'était donc pas juridique ou procédurale, mais elle était probablement autre que celle-là. En tout cas, il n'y avait pas de difficulté juridique. Il y en a peut-être d'autres. Politique, militaire, politico-militaire, mais certainement pas de difficultés procédurales.
Face à l'attitude de la France, le Togo libère les pilotes. 3 personnes viennent alors les chercher, dont le français Robert Montoya, un ancien gendarme de l'Élysée sous François Mitterrand, reconverti dans le trafic d'armes. C'est lui qui a vendu cette année-là des avions et des hélicoptères en provenance de Biélorussie à l'armée ivoirienne, en particulier les 2 avions Sukhoi qui ont tiré sur le camp français. Les pilotes ne sont jamais réapparus depuis. L'affaire du bombardement de Boaké, première partie, l'enquête judiciaire, un grand reportage d'Anthony Latier avec le concours de Frédéric Gara à Abidjan.
Bonjour Anthony Latier.
Bonjour Charlotte Hidarac.
La juge d'instruction met donc en cause trois anciens ministres dans ce dossier. L'ex-ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie, qui était à la Défense, et Michel Barnier aux Affaires étrangères à l'époque. Qu'est-ce que la juge leur reproche précisément?
Eh bien la juge leur reproche d'avoir donné l'ordre de ne pas arrêter les pilotes auteurs du bombardement. Il faut rappeler qu'une enquête avait été ouverte pour crime flagrant dès le jour du bombardement. Or les trois ministres, selon la juge, ont eu connaissance de l'arrestation des pilotes au Togo et de leur identification par les services de renseignement. Et quand on sait qu'une personne peut avoir commis un assassinat contre des Français, eh bien, il faut faire quelque chose, il faut avertir la justice. Et là, rien. Ne rien faire dans ce cas-là, c'est pour la juge une infraction punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Toute la difficulté pour elle, maintenant, c'est la preuve. Il y a des témoignages, il y a des télégrammes diplomatiques. C'est maintenant au parquet de se prononcer.
Donc, ne pas arrêter les pilotes, c'est une première entrave au travail de la justice. Et il y en a eu d'autres dans ce dossier.
Oui, 4 juges se sont succédés dans cette affaire. Toutes ont dû faire face à beaucoup de difficultés, en particulier la première, la juge Brigitte Reynaud. À la fin de sa mission, et c'est plutôt rare, elle s'est plainte dans une lettre qu'elle a envoyée à la ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie. Elle dit très clairement que le parquet et le ministère lui ont mis des bâtons dans les roues. Il faut dire que la plupart des documents sont classés secret défense. Certains ont été déclassifiés, mais pas tous. Et parmi ceux qui ont été déclassifiés, certains sont illisibles. Les textes sont rayés en noir.
Mais il y a eu quand même de nombreuses auditions au fil des années, en particulier 2 des anciens ministres mis en cause par la juge.
Oui, et pour commencer, Michel Alliot-Marie, à la Défense. Devant la presse, elle avait d'abord affirmé que les pilotes n'avaient jamais été identifiés. Devant la juge, elle a reconnu ensuite avoir été mis au courant de leur arrestation. Et à la question « Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé ces faits au procureur ?», elle a répondu qu'on lui avait dit que ce n'était pas sa compétence. Dans ses conclusions, la juge s'agace et elle rappelle que Michel Alliot-Marie est docteur en droit et avocate. Quant à Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, avant même la première question de la juge, il déclare qu'il n'a jamais été saisi de ce dossier. Un représentant français a pourtant dit que l'affaire togolaise s'était traitée au niveau des ministères de l'Intérieur des deux pays, c'est ce que relève la juge. Notons que Michel Barnier n'a pas été entendu. Tous les trois anciens ministres n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro.
Donc question, Anthony Latier, pourquoi la France a-t-elle refusé de remettre à la justice les auteurs du bombardement?
Oui, c'est toute la question. En effet, cet épisode jette le doute sur les intentions de la France de faire toute la lumière sur le bombardement de son propre camp. Si on ne veut pas arrêter les pilotes, c'est qu'on ne veut pas remonter le fil du mercenariat, donc du donneur d'ordre, constate le général Poncet qui dirigeait la force Licorne. On a de la rancœur, dit pour sa part un blessé.
Alors quelles sont les hypothèses sur l'origine de ce bombardement? On y reviendra demain dans un autre grand reportage avec vous Anthony Latier. À demain.
À demain Charlotte. RFI.